Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Garde-nous ferme, garde-nous inébranlable dans le témoignage inébranlable de la foi, de cette foi vécue et de cette marche avec toi, dans la vérité, dans la sainteté. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, nous t'adorons. Veuille nous parler encore maintenant, je t'en prie. Amen. Je ne puis m'empêcher ce matin, alors que je viens vous parler, de penser à ces cataclysmes qui ont bouleversé le monde, cataclysme naturel, mais d'une telle ampleur, telle qu'on ne l'a jamais vue. À plus forte raison que nous connaissons beaucoup de gens dans ces régions-là. J'ai prêché dans plusieurs églises à la Nouvelle-Orléans, il y a des frères et des sœurs là-bas, Biloxi également, Gulfport, Pensacola, Pascagoula, toutes ces villes, je les connais, nous avons prêché la parole. Mobile, Alabama. Je pense à ces frères et sœurs qui habitent dans ces endroits, dans ces villes. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Je sais que vous avez lu, vous avez entendu sur les médias, cet ouragan d'une puissance extraordinaire, plus de 300 km à l'heure, qui peut résister? Qui peut résister? Nous sommes que de petites fourmis. Et je crois que nous n'avons pas cessé de voir des choses à notre époque, car Dieu parle. La Nouvelle-Orléans est connue pour une ville où il y a beaucoup de débauches, beaucoup de péchés. Je ne crois pas qu'elle en a plus. Je ne crois pas qu'elle en a plus que bien d'autres villes de notre monde. Si on devait mettre dans la balance la Nouvelle-Orléans ou Kinshasa, qui l'emporterait? De toute façon, Dieu parle. Dieu parle et nous ne tenons pas notre destinée entre nos mains. Nous ne tenons pas notre destinée entre nos mains, frères et sœurs. Nous devons savoir et nous rappeler qu'il y a une autorité supérieure au-dessus de nous. Une autorité supérieure, c'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Il y a toujours des conséquences. Et voilà, c'est un principe dont nous devons nous souvenir. Il y a toujours des conséquences à nos actions. Nous pensons que nous pouvons vivre comme nous l'entendons, faire ce que nous voulons, obéir à Dieu ou désobéir et faire notre propre volonté, faire la volonté de Dieu, mais faire ce qui nous plaît à nous, essayer d'adapter les choses saintes aux choses profanes, essayer de mélanger la vérité et le mensonge, essayer de mélanger la foi aux superstitions. Nous pouvons essayer toutes ces choses-là et essayer d'adapter, mais ce n'est pas nous qui adaptons, c'est Dieu. Et il n'y a rien à adapter sur les vérités bibliques. Il n'y a rien à adapter sur les principes fondamentaux de la parole de Dieu. Il n'y a rien à adapter. Frères et sœurs, Dieu a parlé et nous devons obéir. Devant nous, il y a une autorité supérieure, l'autorité supérieure du Créateur de l'univers. Et nous devons savoir qu'il y a toujours conséquence à nos actions, quelles qu'elles soient, que ce soit le bien, que ce soit le mal, que ce soit l'obéissance, que ce soit la désobéissance. Nous l'avons vu pour Israël combien de fois. Et depuis quelques dimanches, nous parlons de ces bandes, de ces hordes de Madian et d'Amalek qui ont subjugué Israël. comme un ouragan pour piller et jeter la désolation et la misère. Est-ce que Dieu ne le voit pas? Est-ce que Dieu ne le connaît pas? Dieu utilise maintes façons, beaucoup de chemins différents pour parler à ceux qui s'éloignent de lui, pour les amener à la réflexion, pour les ramener sur le droit chemin, pour leur rappeler qu'ils ne sont que poussière, qu'ils ne sont que des vers de terre, et que toutes leurs décisions, quelles qu'elles soient, amènent des conséquences. N'oublions pas que le Dieu de la Bible, ce Dieu grand, est terrible, mais aussi ce Dieu d'amour qui a envoyé Jésus-Christ sur la croix pour mourir pour nos péchés. N'oublions pas que ce Dieu n'a pas changé et qu'il est le même. N'oublions pas que ce Dieu agit encore comme il le veut. Et sa volonté, nous ne l'ignorons pas. Nous ne l'ignorons pas, car elle nous est révélée dans sa parole. Il y a conséquences, croyez-moi. Conséquences à nos actions. Conséquences à nos paroles. Conséquences à nos décisions. Et trop souvent, nous disons, je décide, je pense, je veux, je vais faire. Qui es-tu pour décider de toi-même? Tu ne t'appartiens pas, mais tu appartiens à celui qui t'a créé un, qui t'a sauvé deux. Tu n'as pas l'autorité sur toi-même. Tu n'as pas le droit de décider de ta vie comme tu le veux. Trop souvent, nous parlons de façon inconsidérée, sans considérer le Dieu puissant qui est au-dessus de nous et qui nous a prêté, c'est le mot qui va, qui nous a prêté vie, car cette vie ne nous appartient pas, elle appartient à lui, le Créateur. Et il nous a créés pour un but précis, pour un but particulier, pour un but tel qu'il le veut. Trop de chrétiens ne font que leur propre volonté. Trop de chrétiens ne décident que par eux-mêmes, sans demander à Dieu de les conduire, de les diriger, sans demander à Dieu qu'il les dirige dans sa volonté. Trop de chrétiens décident par eux-mêmes de leur avenir. Trop de chrétiens se laissent diriger par les autres. L'organisation est une bonne chose. Elle doit être, elle était dans la Bible. Mais frère, il y a une autorité au-dessus de l'organisation. Si cette organisation ne marche pas sur les traces du Dieu vivant, qu'a-t-elle à nous dire? Nous devons l'obéissance, nous devons la soumission les uns aux autres, mais avant tout, nous devons la soumission au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Et quand il a parlé, il demande à nous soumission, sinon, attention, conséquence. Israël est sous la conséquence de son péché, la conséquence de sa rébellion. Gloire à Dieu de ce que Dieu n'a pas abandonné pour tout pour cela. Oh, si Dieu nous abandonnait dès nos premières incartades, si Dieu nous abandonnait dès nos premières rébellions, si Dieu nous abandonnait dès nos premières désobéissances, eh bien, je crois qu'il n'y en a pas un, en passant par moi, qui serait ici ce matin. Pas un. Ce n'est qu'à cause de la grâce et de la compassion de Dieu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, et rien d'autre, et rien d'autre, et rien d'autre. Ce n'est pas à cause de notre excellence. Il était patient, il était magnanime, il était merveilleux dans son amour, malgré notre difficulté à comprendre. Et bien des fois, nous n'avons pas compris et nous ne comprenons pas parce que nous ne voulons pas comprendre, ni faire confiance à Dieu. Israël s'est éloigné, mais Dieu n'a pas abandonné Israël. Il l'a laissé dans son problème pendant 7 ans, jusqu'au moment où je suis sûr, comme du temps d'Élie, Dieu s'était réservé 3 000 hommes. alors qu'Élie se pensait seul et abandonné. Nous pensons certaines fois que nous sommes seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Et même du temps de Gédéon, il y a eu quand même de ces vieux, de ces anciens, de ces hommes et de ces femmes, moins vieux, moins anciens, et même des jeunes qui n'ont pas abandonné l'Éternel et qui se lamentent, et qui se lamentent à cause de quoi? À cause de l'idolâtrie qui est rentrée dans le peuple. De ces dieux étrangers. Et Dieu a décidé, voilà, ces temps, ça suffit, je m'en vais intervenir. Et il intervient avec un petit gars qui n'est pas connu de personne, qui n'a pas de relations publiques, qui n'est que avec son père, un ouvrier agricole, si vous voulez, quoique son père a une certaine responsabilité. Et là, dans ce village, dans cette bourgade, il est connu, bien sûr. Dieu a décidé, parce qu'il a vu son cœur découragé, il en a marre, il en a assez, la misère, le pillage, plus rien, on ne peut même pas gagner sa croûte comme on le voudrait. Quel avenir pour nous, quel avenir, partir dans un pays étranger, partir ailleurs, et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ma terre est ici, partir où? Pourquoi faire? Non, oh Dieu! Et il pleure, et il bat son blé, là, dans un pressoir. Mais Dieu l'a vu, et il a dit, c'est lui que je vais choisir, et il envoie Jésus-Christ. Et il est là, sous la forme d'un homme, assis sous un arbre, et il engage conversation avec lui, et lui dit des paroles ineffables. Et le cœur de Gédéon est enflammé par ce qu'il a entendu. Il est enflammé, il ne sait pas comment il va faire. Mais il obéit. Nous avons vu dimanche dernier comme il a détrôné Baal. La nuit qui a suivi cette révélation extraordinaire qu'il a eue de la part du Dieu puissant. Oui. Dès que la nuit était là, il a pris 10 hommes, il a démoli ce grand autel de Baal bien bâti avec des belles pierres bien taillées, de 6 mètres carrés à peu près de surface, 1,50 m de haut. Pourquoi? Parce que les gens de Baal font les choses bien. L'apparat, l'extérieur, l'apparence doit être parfaite. Oui. Et il construit l'autel de l'Éternel selon les ordres de l'Éternel avec 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël. 12 pierres brutes. Dieu ne veut pas que l'homme mette sa main sur son autel. 2 pierres, 12 pierres brutes. Et il bâtit. Avec ces 12 pierres, on ne peut pas faire un grand autel qui a une belle apparence extérieure. Ce sont que des pierres brutes ramassées telles qu'elles sont. C'est ce que Dieu avait dit. Je ne veux pas l'intervention de l'homme sur mon autel. Il a décidé, Gédéon, d'obéir à son Dieu. À cause de cela, il y aura des conséquences. Avec une première bataille à livrer. Nous allons lire dans Juges, chapitre 6, verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé. Le poteau d'Achéra placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le poteau d'Achéra qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce à vous de plaider la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Il y aura toujours des conséquences à nos actions. Conséquences positives ou conséquences négatives. Vous obéissez à Dieu et à ses commandements, il y aura toujours des gens pour vous contredire. Voilà la première bataille que doit livrer Gédéon. Son engagement, son action ne peut rester caché. Non! Tu l'as fait la nuit, tu l'as fait en secret, tu ne l'as pas fait publiquement, mais le jour le révélera. L'obéissance même dans les ténèbres de la nuit produiront des résultats visibles à la lumière du jour, car les hommes doivent voir et doivent choisir. Et forcément, forcément, il y aura une réaction des gens. Il y aura une réaction dans ta famille. Il y aura une réaction dans tes amis. Il y aura une réaction dans ton entourage. Sachons bien que tout le monde ne va pas approuver et accepter ce que vous avez fait en obéissant aux ordres du Dieu vivant. Ils ne vont pas forcément accepter. Combien de personnes se sont élevées contre le message des apôtres? Comme disaient les apôtres au Sanhédrin, le grand tribunal religieux juif de cette époque, lorsqu'ils furent appelés devant Dieu et qu'ils les menacèrent parce qu'ils prêchaient et répandaient la doctrine de Jésus, le nom de Jésus. Et ils interdirent aux apôtres de continuer à parler au nom de Jésus. Et les apôtres leur répondirent, « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y aura une réaction lorsque vous vous levez pour la vérité, pour la justice, pour la sainteté, pour ce qui est vrai, pour ce qui élève, pour ce qui glorifie Dieu. Il y aura des réactions. » Lorsque vous proclamez que vous croyez dans le Dieu puissant et dans le Dieu vivant. Ces gens-là vont réagir et ils vont dire, la religion vous est montée à la tête. Ils vont vous dire que vous êtes devenus fous. Ils vont vous dire que vous n'êtes pas tolérant. Ils vont vous dire que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Ils vont vous dire qu'il faut respecter les autres avec leurs croyances, avec leurs différences. Avec leurs différences, et il faut les respecter avec leur choix de style de vie, avec leur choix de religion, qu'il faut les accepter avec leur comportement. Qu'il faut les accepter avec leur culture. Voilà ce qu'ils vous diront. Baal, c'est une culture. Baal, c'est une religion. Baal, c'est un style de vie, de débauche et de révolte, de péché contre nature. Baal, c'est un style de vie insupportable au Dieu vivant. Pourquoi devrions-nous fermer la bouche? Pourquoi devrions-nous laisser passer devant Baal et nous taire? Non! Tout cela est imprégné d'occultisme. Sachez que chaque idole, chaque statue, chaque image a derrière elle un démon. C'est pourquoi Dieu ne le supporte pas et ne veut pas le supporter. Vous vous mettez à genoux devant une image devant à quelque chose culté, quelque chose du fruit de l'art de l'homme, quelque chose fait dans le bois ou dans la pierre ou dans le métal fondu, quelque chose, une belle pièce d'orfèvrerie, bien taillée et dorée. Sachez que derrière cette image, devant laquelle vous vous prosternez et que vous vénérez, il y a un ou des démons. Car ils cherchent votre adoration. Ils cherchent votre adoration. Dieu ne pourra jamais accepter l'idolâtrie sous quelque forme que ce soit. Sous quelque forme que ce soit, camouflée ou ouverte, cette forme, de quelque façon qu'elle s'exprime, cette idolâtrie. Il y a mille façons où cette idolâtrie s'exprime. Cette médaille que vous mettez dans votre voiture, soi-disant pour vous protéger avec l'image de quelqu'un qui certainement dans le passé a vécu une vie digne, mais c'est une créature. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Ce n'est pas cette image qui peut faire quoi que ce soit pour vous. Et si tu la vénères, et si tu penses qu'elle va te protéger dans ta voiture, tu es un idolâtre. Il en est de même de cette chose que tu portes autour du cou. Il en est de même de cette petite chose, cette petite statue, que sais-je, cette image que tu as à la maison et devant laquelle tu plantes des bougies. C'est une idole et là derrière il y a un démon. Les adorateurs de Baal sont des gens zélés. Ils n'ont jamais négligé depuis plus de 7 ans leur culte matinal à Baal. Ils sont là, devant l'affreuse idole. Je ne sais pas si vous avez vu sur les découvertes archéologiques, les reproductions dans certains de ces livres qui nous racontent les découvertes, ces idoles affreuses de Baal. Affreuses. Quelle aberration! Déjà rien que l'idole à la voir, c'est un démon. Ils sont là devant cette affreuse idole à offrir sur son autel des sacrifices en chantant des litanies qui ne sont que de vaines redites. Ah oui! C'est pour ça que le Seigneur dit que vos prières ne soient pas de vaines redites. Vous savez, ces choses que l'on récite machinalement, la pensée s'en va ailleurs, on pense aux poules qu'on va faire frire pour manger ce soir, on pense aux poules doux qu'on doit acheter au marché, et automatiquement la bouche parle et prononce des paroles qui sont là, un automatisme dans le cerveau, et puis ça continue ainsi, des vaines redites. Dieu ne les entend pas. Ça, c'est la façon de faire des païens. Ça, c'est la façon de faire des idolâtres. Attention. Jérémie a bien dit dans Jérémie 17, 20, lorsqu'il a dit, « L'homme peut-il se faire des dieux alors que ce ne sont pas des dieux ?» C'est vraiment une pensée, là. L'homme peut-il se faire des dieux? Un dieu, par définition, est supérieur à l'homme, d'accord? Un dieu, par définition, a une puissance. Un dieu, par définition, est quelque chose de spécial qui nous dépasse. Alors, l'homme peut-il se faire des dieux? Peut-il se fabriquer des dieux alors que ce ne sont pas des dieux? Ce ne sont pas des dieux. Ah, vous allez dire, oh, mais c'est simplement pour représenter, pour nous donner une représentation visible. Ce n'est pas cette statue compris, mais c'est une représentation visible de l'invisible. Va dire ça à l'homme simple. Va dire ça à l'homme du peuple, pas instruit. Va dire ça à l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il va regarder cette chose-là et il pense que cette chose de plâtre ou de bois va répondre à sa prière. En ce matin-là, lorsque ces adorateurs de Baal, au lever du jour, arrivent au lieu du culte de Baal, ce matin-là, c'est la consternation, c'est le choc, c'est la fureur en face de ce qu'ils voient. Tout est renversé. L'autel, avec ses belles pierres bien taillées, est démoli. Pierre après pierre ont été déplacées, même les plus grosses. Mais regardez-moi ça, mais c'est pas possible. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est un sacrilège. On ne respecte rien aujourd'hui. Regardez les temps dans lesquels nous vivons. C'est pas possible. On ne respecte rien. Ils regardent un peu plus loin. Un autel à l'Éternel a été bâti. Là, un peu plus haut sur la colline. Oh, gloire à Dieu. Tu domines. Tu domines. Dieu avait dit à Gédéon, là-haut, là, au pied, là où c'est élevé, là tu feras mon autel. Et sur cet autel, tu le feras. Et tu vas le faire comme je l'ai ordonné. 12 pierres brutes. Je ne suis pas là pour l'art. Je ne suis pas là pour la sophistication. Je suis là pour le sacrifice. Je ne suis pas là pour les pompes. Je ne suis pas là pour l'extérieur. Je ne suis pas là pour frapper l'imagination de l'homme. Ce qui m'intéresse, c'est le sacrifice selon les règles. Là, il voit cet autel sur lequel a été offert le reste, le taureau, avec le reste du bois, du poteau d'Achéra qui est en train de se consumer, où il fume encore. Et ils regardent ces gens et ils disent, pourquoi cet autel? Et à quel Dieu? Je suis sûr qu'ils ont dit cela. Ça va être la réaction de Joas, son père, devant cette foule en colère. Gédéon, pour l'instant, ne sait pas, mais ça bat fort là-dedans. Et l'Éternel qui m'a ordonné de renverser cet autel, que va-t-il faire? Oui, c'est lui qui me l'a dit. Je l'ai fait, j'ai obéi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ces gens qui s'énervent, qui crient. De multiples questions se posent à Gédéon. Quand Joas a vu et constaté ce que son fils avait fait, il a, je suppose, il a senti une grande honte dans son cœur. C'est un homme qui doit avoir au moins 60 ans, peut-être plus. Puisque son dernier fils est un homme fait. Combien de fils a-t-il eu? Combien de filles a-t-il eu? C'est un homme, donc, de 60 et plus, croyez-moi. Joas a connu le temps de l'abondance. Joas a connu le temps de la bénédiction. Joas a connu le temps de la joie. Il a connu le temps de la paix. Au temps où Israël marchait selon les voies de l'Éternel, servait l'Éternel de tout son cœur. Depuis que Israël s'est tourné du côté de Baal et a rejeté l'Éternel, c'est la ruine, c'est la dégradation, c'est la peur, c'est la misère, c'est la guerre, c'est le pillage. Il a, lui, Joas, accepter ce faux Dieu. Il connaissait le vrai Dieu. Mais il a accepté le faux Dieu. Pourquoi? Pour plaire aux hommes. Pour suivre la majorité. Pourquoi encore? Eh bien, pour suivre la foule. Il l'a fait encore par ambition politique, Joas. Il a cru aux mensonges de ceux qui disaient « Nous pouvons ajouter Baal à l'Éternel. » Nous n'abandonnons pas l'Éternel, non, mais enfin, soyons larges d'esprit. Soyons larges d'esprit. Il n'y a pas que l'Éternel et du reste. Baal, c'est un Dieu, non? Et l'Éternel, c'est un Dieu, non? Alors, qu'on ajoute Baal, qu'est-ce que ça change? Croire en Dieu, ça suffit. Il suffit d'être sincère, c'est ce qu'ils disent. Il suffit de croire en Dieu, c'est ce qu'ils disent. Peu importe la façon de s'exprimer, peu importe la représentation que l'on en fait. Voilà le raisonnement des hommes, vous m'entendez? Oh, on croit en Dieu, ça suffit. Bon, il y a différentes routes. Il y a des gens qui disent même, il y a un proverbe qui dit, tous les chemins mènent à Rome. Alors, allez à Rome si vous voulez. Moi, je préfère le chemin qui ne mène pas à Rome. Et il y en a un, qu'a dit Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Joas sait que Baal n'est pas le Dieu d'Israël. Il le sait, ce papa de 65 ans. Peut-être avait-il mon âge. On est encore très fort à mon âge. Puisqu'à 80 ans, Caleb a dit, je suis aussi fort qu'avant. Donne-moi cette montagne. Je me vais la conquérir au nom de l'Éternel. L'âge n'a rien à voir là-dedans. C'est l'appel de Dieu qui a à voir là-dedans. Et si tu agis et fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu vaincras, quel que soit ton âge. Joas sait que Baal n'est pas le Dieu d'Israël. Oui. Et il sait aussi que Baal n'est pas un dieu. C'est un démon. Sa conscience a souvent parlé. Oui. Mais en tant que premier responsable de son village, peut-il lui seul prendre une position différente? Soyons raisonnables. Soyons diplomates. Peut-on prendre une position différente à celle de la masse? Nous sommes dans une démocratie et nous devons nous soumettre à la décision de la masse. Oui, c'est vrai. La masse a crié « Crucifie, crucifie-le ». Avait-il raison? Ils n'avaient rien compris. Ils étaient subjugués par l'ennemi. Mais le Dieu puissant a changé le négatif en positif. Mais je vous exhorte. Ne vivez pas dans le négatif en disant il y aura le positif. Si vous ne prenez pas position, vous portez votre propre responsabilité. Il y a des conséquences. Oui, c'est vrai, il a risqué son pouvoir. Il a risqué son autorité, Joas. Il a risqué sa popularité. Il risque la désapprobation de la masse. Il risque le rejet. Il risque le déshonneur. Dénoncer Baal, n'est pas une bonne politique. Il faut penser à son avenir. Faisons un compromis. Voilà la position de Joas. Combien de compromis n'avons-nous pas fait chez nous au Congo pour arriver qu'à la misère parce que nous avons adoré Baal? Qui va se tenir debout pour la vérité, pour la justice, pour la transparence, pour l'amour du prochain? Combien de raisonnements n'avons-nous pas eu inspirés par l'égoïsme, inspirés par la cupidité, inspirés par la soif de pouvoir, inspirés par l'orgueil, inspirés par l'intérêt personnel? Nous savions dans notre fort intérieur les vraies motivations. Nous avons voulu plaire aux gens en savant que ce n'était pas le chemin. Mais nous nous sommes dit, quand j'aurai la place, le plus rapidement possible, je m'en vais me remplir les poches. Et après, on verra bien. Je partirai ailleurs et laisserai le chaos derrière moi. Pourquoi? Parce que tu as adoré Baal. Et Baal amène les pillards et le chaos. Joas sait où est la vérité. Joas sait quel est le chemin de la vérité. Mais il a manqué de courage. Il a oublié Dieu en voulant l'approbation populaire, en cherchant la gloire des hommes et peut-être un intérêt matériel non négligeable. Le Dieu de justice, le Dieu saint, le Dieu puissant n'a pas été sa priorité. Voilà pourquoi nous sommes dans une telle misère dans notre pays. Le Dieu saint, le Dieu juste n'a pas été notre priorité. Notre priorité, c'était notre moi. Notre intérêt, tout a été calculé selon son ambition à Joas, selon son désir, et Dieu a été oublié. Écoutez ce que l'Éternel dit à travers Ézéchiel au chapitre 14, verset 3. Ces hommes-là portent leur idole dans leur cœur. Peut-être que vous n'allez pas voir chez eux une idole, un fétiche, je ne sais quoi. Peut-être qu'ils se proclament et se disent chrétiens, mais ils portent leur idole dans leur cœur. Parce que Joas avait une idole dans son cœur, il a fini par accepter Baal. Maintenant, son fils, le plus jeune, le rappelle à l'ordre par ses actions courageuses. Gloire à toi pour les jeunes dynamiques qui ont décidé d'obéir à Dieu plus qu'à Satan. Les vieux ne sont pas toujours des exemples. Attention. Gédéon a eu plus de courage que Joas, son père. Et d'une certaine façon, il lui lance un défi auquel il doit répondre. Gédéon lance un défi à son père à travers cette idole qu'il a détruite. Et maintenant, son père doit répondre à ce défi. Il doit prendre position publiquement, obligé. Il sait que Gédéon a raison. Chose difficile à accepter pour un père. Combien de pères trop orgueilleux ne veulent pas accepter les justes décisions de leur fils ou de leur fille. Si ton fils et ta fille te disent quelque chose et te ramènent des vérités que tu as oubliées, sois sage pour écouter et sois prêt à t'humilier. Il sait qu'il aurait dû prendre position depuis longtemps. Joas décide de prendre la défense de son fils Gédéon. Gloire à Dieu. devant la foule déchaînée, devant la foule en colère. Et il dit alors, est-ce à vous de plaider la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant le matin, que le matin vienne. Ah, il sent qu'il y a Dieu là, le Dieu d'Israël qui punit, le Dieu d'Israël qui juge. Et il leur dit, je suis sûr que si vous prenez la défense de Baal, Dieu interviendra et vous serez terrassés. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Voilà une bonne leçon et une prise de position claire et nette. Zoar a là une bonne théologie. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu, au milieu de ce monde déséquilibré, au milieu de ce monde dans la souffrance et dans le malheur, au milieu de ce monde dans lequel tu es en train de parler, quelque part dans le monde, il y a des inondations épouvantables. Un peu plus loin, des sécheresses qui amènent la misère. Plus loin encore, des ouragans dévastateurs tels qu'on n'a jamais vus. Seigneur, jusqu'à quand? Tu parles, c'est vrai. Les hommes expliquent. Et ils vont dire, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, le réchauffement de la planète, les courants humides, les vents chauds qui s'élèvent, qui rencontrent les vents plus froids, qui provoquent ceci et qui provoquent cela. Ils vont expliquer. Mais mon Dieu, je sais qu'il y a une autorité au-dessus de nous. C'est lui qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui tient le monde dans sa main. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, use de grâce envers cette génération. Use de grâce envers cette génération, je t'en prie. Le temps est court, le temps est court. Qui sait si nous vivrons demain? Aurons-nous de tels typhons sur Kinshasa et sur le Bas-Congo? Un typhon dont la surface est comme celle de la moitié de la France. Avez-vous vu ces choses-là? Qui vous dit que de telles choses n'arriveront pas au Congo? Cessons d'adorer Baal. Cessons d'adorer la chair. Cessons de vouloir marcher dans le compromis tout en disant nous sommes chrétiens, nous appartenons au peuple de Dieu. Frères, sœurs, revenez à lui. Toi qui es éloigné de lui, il t'appelle maintenant, lève-toi, qui que tu sois. Lève-toi, il t'appelle maintenant. Lève-toi, réponds à son appel. Oui, Seigneur, je me lève maintenant devant toi parce que je veux te suivre et je veux marcher avec toi. Lève-toi, y en a-t-il d'autres encore? Y en a-t-il d'autres? N'attendez pas, l'heure passe. Nous avons un deuxième culte qui arrive tout de suite après. Lève-toi, s'il te plaît. Cette décision dépend de toi. Cette décision dépend de toi. Prends cette décision devant Dieu. Que sommes-nous? Nous sommes des hommes comme vous. Qu'est-ce qu'on peut vous faire? Absolument rien. Nous n'avons pas plus de force que vous. Mais simplement, Dieu nous a donné un message, une vérité, une connaissance. Nous devons faire attention. Lève-toi, viens à Dieu. Il t'appelle. Reviens. Dans ses bras. Dis, Seigneur, j'ai adoré Baal. Seigneur, oui, je suis membre d'église, mais j'ai ajouté Baal. Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours. Reçois ma prière. Lève-toi en te levant. Tu veux dire par là, je me repens. Oui, je suis chrétien, mais j'ai Baal dans mon cœur. Oui, je suis chrétien, mais je suis dominé par un faux Dieu. L'argent, les femmes, la gloire, l'orgueil, et quoi encore, l'occultisme. Lève-toi, il t'appelle. Ne résiste pas, ne résiste pas, ne résiste pas. C'est peut-être le dernier appel que tu entendras de ta vie. Oh Jésus, je t'apporte ces hommes et ces femmes. Jésus, tu vois là combien ils ont de la peine à se lever et à reconnaître. Mais Seigneur, aie compassion d'eux. Aie compassion d'eux. Inscris-les dans ton livre. Donne-leur la force d'abattre l'idole. Ce n'est pas Dieu qui va abattre l'idole. C'est toi qui dois l'abattre. C'est toi qui vas l'abattre. Dieu va écraser Madian. Il va écraser ses puissances mauvaises. Il va faire ce que tu ne peux pas faire. Mais Dieu ne va pas faire ce que tu peux faire. Écrase, détruis l'autel de Baal qui est dans ton cœur. Merci Seigneur. Je sais que tu entends cette prière. Et je sais que tu t'occupes de chacun de ceux-ci. Maintenant, reprenez vos places. Et Seigneur, nous mettons devant toi cette offrande et ces dîmes que nous allons te présenter maintenant. Ô mon Dieu, bénis Seigneur ceux qui donnent. Bénis Seigneur, bénis je t'en prie. Tu vois tous les projets, tu vois tous les besoins. Pourvois, ô mon Dieu, selon ta richesse. Et retourne à ceux qui donnent de façon même en sacrifice. Retourne-leur ce qu'ils donnent, Seigneur, au centuple.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.